Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc notre conférencier de cet après-midi est le père Marie-Laurent Huet, qui est carme de la province d'Avignon-Aquitaine, directeur des éditions du Carmel, et qui s'intéresse plus spécialement à la spiritualité de la vie religieuse chez Sainte Thérèse. Il a publié un livre qui s'appelle « Cette maison est un ciel » en 2010 aux éditions du Carmel. Et il va nous parler du double commandement de l'amour, l'enjeu universel de la communauté thérésienne.
Bien. Alors, en fait, l'origine de l'idée de cette conférence, cette réflexion, qui sera un peu personnelle à vrai dire, j'espère pas trop décousue, c'est un cours du père Massimiliano, il y a 5 ans, au CITES. Avec le rapprochement entre, vous avez bien compris que la lecture que fait le père Massimiliano de Thérèse et de l'enseignement thérésien, c'est vraiment l'amitié, le thème de l'amitié, et avec dans sa dimension communautaire, avec cette idée que la communauté thérésienne est un ciel. La première fois que je l'ai entendu, c'était au cours du père Massimiliano au CITES, et c'est ça qui a donné le titre du bouquin. Alors comment, à partir de là, la question qui se pose, qui m'habite depuis des années, c'est comment relier ce double commandement de l'amour, l'amitié sous forme du double commandement de l'amour, à la communauté thérésienne. Et avec cette question, est-ce que c'est pas ça qui explique la fécondité extraordinaire du modèle thérésien de communauté ? Évidemment, dans l'ordre du Carmel, il y a je ne sais pas combien de centaines, de milliers de communautés, qui ont vécu selon l'enseignement de Sainte Thérèse depuis 4 siècles, mais aussi en dehors du Carmel. Vous savez que par exemple au XVIIe siècle, la communauté carmélitaine, l'enseignement thérésien sur la communauté a été une des sources majeures de réforme des communautés religieuses en France. Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vous dirais que c'est une réflexion assez ouverte. Vous voyez, pour moi, c'était un peu l'occasion de fixer certaines choses. Je vais essayer d'y répondre en 3 points. La première, c'est de contempler comment Thérèse a découvert et approfondi ce double commandement de l'amour, spécialement dans l'articulation entre amour de Dieu et amour du prochain. Qui est un unique commandement, quelle expérience elle fait que c'est un unique commandement. Ensuite, deuxième partie, si notre vie chrétienne, notre vie sur terre est là pour vivre ce double commandement de l'amour, alors la communauté doit être polarisée par ce double commandement de l'amour, et je vous propose de contempler comment Sainte Thérèse met en œuvre ce double commandement de l'amour dans ces deux versants dans la communauté thérésienne. Et puis enfin, je me suis hasardé, alors là, il ne faudra pas prendre trop au sérieux ce que je vous dirai, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai essayé de réfléchir un petit peu, très modestement, vous pourrez le constater, sur qu'est-ce que la communauté thérésienne, qui donc toute centrée sur le double commandement d'amour, qu'est-ce qu'elle nous dit sur une communauté humaine ? Quel est le sens d'une communauté humaine ? La première partie, donc on va regarder un peu ensemble comment Thérèse a approfondi ce double commandement de l'amour, et plus exactement, j'ai sélectionné l'articulation entre amour de Dieu, amour du prochain. Quand vous regardez, et c'est très frappant, dès le premier chapitre de la vie, ces deux amours sont présents. Il y a l'amour de Dieu. D'abord, l'amour des hommes, l'amour du prochain. Elle fait l'expérience d'être aimée par son père, ses frères, et les aime en retour, et elle insiste. Elle cherche aussi à aimer son prochain en acte, à l'image de son père faisant l'aumône aux pauvres ou accueillant une petite mort. À sa mesure d'enfant, je faisais l'aumône comme je pouvais et je pouvais peu. Et puis, l'amour de Dieu est également présent dès le début. Je recherchais la solitude pour dire mes prières qui étaient nombreuses. Et des années plus tard, elle reconnaît que Dieu lui manifestait son amour. Alors que je prononçais longuement ces mots pour toujours, toujours, le Seigneur me faisait la grâce de marquer en moi, dès l'enfance, le chemin de la vérité. Donc on a ces deux on a ces deux amours qui sont déjà là. Par contre, vous remarquez qu'ils ne sont pas articulés entre eux. Ils sont comme en parallèle. Ils sont présents, mais il n'y a pas d'articulation, comme si c'était deux amours distincts. Elle rentre à l'incarnation. Elle continue, en fait, au début, sur la même lignée. Qu'est-ce qu'elle relève à l'incarnation ? Enfin, deux éléments qu'elle relève. Bon, d'abord, il y a la liturgie, très important à l'incarnation, qui était bon, donc la spiritualité qu'on vit au monastère de l'incarnation à son époque. C'est une spiritualité héritée du Moyen-Âge qui a fait ses preuves, qui est axée dans deux directions. Si vous voulez, l'incarnation du double commandement dans ce cadre, c'est l'amour de Dieu, c'est la liturgie. Donc à l'incarnation, une liturgie très déployée, avec des instruments de musique, à plusieurs voix, etc. Thérèse en parle, elle dit que elle avait beaucoup de mal à préparer son bréviaire parce que c'était très compliqué. Et puis, il y a l'amour du prochain, dans le sens l'attention les unes envers les autres, la visite, les notes de la visite que le général Roubéo a faite en 1567 montrent avec évidence que les sœurs vivaient de cette spiritualité. Celles qui avaient faim, celles qui avaient les moyens essayaient d'aider celles qui avaient faim, etc. Et Thérèse est présente dès le chapitre 5 de la vie. Il y a les actes de charité, balayer, elle s'intéresse à la sœur malade qui a un ulcère, elle rejette tout, et Thérèse a ajouté, elle mourut peu de temps après, on comprend la pauvre. Donc, vous voyez, Thérèse, quand elle arrive à l'incarnation, ses deux amours sont présents à travers la spiritualité qui lui est proposée à l'incarnation, mais d'une certaine manière, on est dans la continuité de son enfance, il n'y a pas d'articulation. Tout va changer à partir du moment de la découverte de l'oraison comme amitié. Thérèse commence à faire oraison et elle fait tout de suite l'expérience que Dieu se donne. Ce qui est son expérience fondamentale. Ce que disait le père Massimiliano tout à l'heure, pour comprendre la spiritualité thérésienne, en fait chrétienne, la mystique est toujours avant la ascèse. C'est une clé absolument fondamentale. Absolument fondamentale. Elle commence à juste ouvrir la porte, pas faire oraison, prendre du temps, laisser un temps à Dieu, c'est rien. Et là, tout de suite, Dieu se donne, la mystique. Et là, cette expérience, si vous prolongez ça donc dans le chapitre suivant, chapitre 5, elle fait l'expérience, et chapitre 6, paragraphe 3, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que ce que cet amour de Dieu vécu, reçu dans l'oraison, lui fait comprendre ce que l'aimer signifie. Ce que aimer signifie. Elle dit ailleurs, quatrième demeure, chapitre 1, je crois, paragraphe 7, je ne serais pas très étonné que nous ne sachions pas ce que c'est qu'aimer. On pense que c'est le mot le plus évident, la réalité de l'amour, mais en réalité, on ne sait pas. Et Thérèse découvre, en recevant cet amour de Dieu, qu'en fait, elle ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Et qu'elle va recevoir cet amour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Elle découvre des petites fleurs de vertu qui naissent en elle et qui la rendent capable d'aimer Dieu ? Non, son prochain. Elle reçoit cet amour de Dieu et en recevant cet amour de Dieu, le premier fruit, c'est l'amour du prochain. Alors, la patience, d'éviter les médisances, comme elle était très loquace, je pense qu'elle était particulièrement exposée à ce défaut. Voilà. Et ça, elle dit qu'elle le reçoit. Ça, c'est aussi important. Entendez ça. Les vertus, pour Thérèse, c'est pas d'abord des exercices de musculation. C'est quelque chose qui est reçu dans la grâce par l'amitié avec Jésus. L'amitié avec Jésus. Donc, l'aimer, le Seigneur m'a appris ce que l'aimer signifie. Oui, par les vertus reçues de lui et que je vais exercer envers mon prochain, premier élément. Deuxième élément, on voit bien cette rencontre de l'oraison lui fait comprendre une intériorisation du commandement. En fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle découvre le sermon sur la montagne. Le programme de vie thérésien, vous savez, c'est rien d'autre que le sermon sur la montagne. Rien d'autre. Chapitre 5 à 7 de Matthieu. Et au cœur de ce chapitre, de ce sermon sur la montagne, il y a « Et pour toi, quand tu pries, ferme la porte et ton Père est là dans le secret. » Quand tu fais l'aumône, ne va pas clamer, mais que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, ou l'inverse. Vous voyez, l'intériorisation. Deuxième élément, l'intériorisation. Et puis, là-dessus arrive la crise.
cette conversion de Thérèse, ces 12 années de crise avec les fameuses histoires des parloirs, vous savez, le passé journée au parloir, bon, il y a un certain chevalier qui fait partie des heureux à avoir des parloirs avec Sainte Thérèse, moi ça m'aurait bien plu, hein, honnêtement. Voilà. Et cette crise des parloirs qui est extrêmement riche, hein, ces parloirs, on peut l'aborder de plein de manières, si vous voulez. Hein, comme disait, je ne sais plus quel intervenant hier, mais je crois que c'était le frère Jean-Baptiste, Thérèse a tellement de facettes qu'on ne peut pas la réduire à une seule. C'est une personnalité qui est profondément ouverte, ce qui veut dire que aussi la recherche sur Thérèse, la compréhension de Thérèse, elle est ouverte. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Ou ce que disait Christophe, Thérèse, plus on en connaît, plus on en découvre. Hein, plus on pressent qu'il y a beaucoup d'autres choses à trouver, quoi. Alors, cette crise, on peut la regarder aussi du point de vue du double commandement de l'amour. C'est chapitre 7, 17, paragraphe 17 de la vie. Voilà ce qu'elle nous dit sur comment elle vit cette crise intérieurement. « Ma vie était extrêmement pénible, car dans l'oraison, je voyais mieux mes fautes. D'une part, Dieu m'appelait, premier versant. De l'autre, je suivais le monde, deuxième version. Toutes les choses de Dieu me contentaient vivement, premier versant. Celles du monde me tenaient ligotées. Je paraissais vouloir accorder ces deux adversaires, si ennemis l'un de l'autre, que sont la vie spirituelle, ses joies, ses saveurs et les passe-temps sensuels. Hein ? Elle voit bien, d'un côté, elle aime Dieu, hein, elle a cette relation d'amitié avec Dieu, voilà, qui est signifiée entre autres par l'oraison, par les temps d'oraison. Et puis, d'un autre côté, il y a cette amitié avec les hommes. Et le problème, c'est que là, elle vit ses amitiés d'une manière qui n'est pas articulée avec l'amitié avec Dieu. C'est ça son drame. Hein. En fait, elle fait l'expérience, et c'est ça la clé pour moi, quand j'ai compris ça, c'était une grande lumière. Elle fait l'expérience qu'on a une seule capacité d'aimer. C'est pour ça que le double commandement est unique. On a une seule capacité d'aimer. Hein. Et donc, si je ne peux pas aimer Dieu d'une manière différente que j'aime les hommes, et je ne peux pas aimer les hommes de manière différente que j'aime Dieu. L'envers qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois que je fais un acte d'amour envers mon prochain, mon frère de communauté, la personne que j'accueille à la porterie ou que je croise dans le train, mon amour de Dieu grandit. Et inversement, à chaque fois que j'essaye tant bien que mal d'accueillir cette amitié de Dieu à la chapelle ou dans ma cellule ou je sais pas, je grandis dans l'amour de Dieu. Et ça, c'est métaphysique, si vous voulez. C'est du niveau de l'être, comme disait le père Maximiliano. Hein, c'est l'être, à chaque fois que j'aime, j'ai ma capacité d'aimer qui est unique, qui grandit. Alors, évidemment, et là, les 15 ans de Thérèse, elle manifeste. Hein, ces 15 ans de conversion manifestent que ça, c'est un processus qui n'est jamais achevé, qui s'achèvera uniquement dans la gloire. Hein, le sens de notre vie sur Terre, c'est quoi ? C'est d'agrandir, de laisser le Seigneur agrandir notre capacité d'aimer. C'est ça le but de notre vie sur Terre, hein, rien d'autre. Tout le reste, c'est complètement accessoire ou au service de ça. Hein. Bien. Donc, ça va être tout un processus. On en reparlera dans la communauté thérésienne, quand je parlerai de la communauté thérésienne. Comment ça se conclut ? Ça se conclut par, après beaucoup de péripéties, une intervention de Dieu. Et à l'issue de cette intervention de Dieu, avec cette parole, désormais je ne veux plus que tu parles avec les hommes, mais avec les anges, à l'issue de cette intervention de Dieu, Thérèse constate « Jamais plus je n'ai pu fonder une amitié, ni recevoir des consolations, ni éprouver un amour particulièrement vif, qu'il ne s'agisse de personnes dont j'entends bien qu'elles aiment Dieu de cette façon et cherchent à le servir. Et ce me fut impossible, et peu m'importe qu'il s'agisse de parents ou d'amis. » Cette unification de l'affectivité, hein, de cette capacité d'aimer, désormais, Thérèse va aimer le prochain à cause de Dieu. Pas pour elle, mais à cause de Dieu. Et c'est ça qui va lui permettre d'aimer le prochain en vérité. Parce que jusque-là, elle aimait le prochain pour ce que le prochain lui donnait, vous comprenez ? Alors que si j'aime le prochain à cause de Dieu, pour l'amour de Dieu, parce qu'il est créé par lui, aimé par lui, etc., ça me rend profondément libre. Et résultat, à partir de là, Thérèse devient amie d'une amitié forte qui apporte énormément à tous ses amis avec toutes les personnes qu'elle rencontre. C'est la sainte de l'amitié par excellence. Et ça continue aujourd'hui. Le nombre d'amis que Thérèse se fait, il n'y a qu'à voir, vous avez qu'à voir vos conférenciers. Hein. On se dit tous, moi, je n'ai pas dit que j'étais amoureux, inconnu, oui, je le sais. Amoureux, je le suis au dernier degré, ça, c'est clair. Hein, de Thérèse, j'en ai pas d'autres. Hein. Voilà. Bien. Donc, il ne faut surtout pas comprendre que cet amour de aimer le prochain pour Dieu, ça serait comme le pauvre prochain, on l'aime à cause d'un autre. Ça ne fait pas trop bien. Non, au contraire. Le prochain, je l'aime pour ce qu'il est vraiment. Et donc, c'est ça qui va permettre une vraie relation d'amitié. Une vraie amitié. Et c'est ces amitiés que Thérèse va vouloir mettre en place dans ses communautés. Bien. Donc, je récapitule un peu cette première partie. Le chemin de conversion de Thérèse, un des aspects, est un chemin d'apprentissage de l'amour de Dieu et du prochain, et surtout de l'unicité de cet amour. Thérèse est une preuve vivante de ce que le premier commandement est bien celui-là. Si dès son enfance, Thérèse s'y applique, elle découvre petit à petit qu'elle ne sait pas aimer et qu'il lui faut apprendre. Apprendre tout d'abord que l'amour et la capacité d'aimer se reçoivent de Dieu. Et c'est d'une des premières expériences qu'elle fait des fruits de l'oraison, avec l'amitié avec divine. Je crois en effet, vu notre mauvais naturel, que si notre amour du prochain ne s'enracine pas dans l'amour de Dieu, nous n'y atteindrons jamais parfaitement. Par là, elle fait l'expérience de ce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Thérèse, vous savez, c'est un évangile vivant, c'est rien d'autre. Apprendre ensuite que notre capacité d'aimer est unique, j'ai bien insisté, et que si notre amour envers le prochain n'est pas libre, notre cœur ne saurait être libre d'aimer Dieu. Thérèse qui dit « Dieu veut ses épouses libres ». Et enfin, que l'amour est fait, alors ça j'ai sauté, bon, j'ai oublié, c'est la dernière dimension, je dis rapidement, une dernière élément dans la maturation de l'amour de Thérèse, c'est la vision de l'enfer. Elle voit la place, elle voit le résultat du salut en elle. Elle voit que, elle expérimente dans sa chair que Dieu l'a sauvée, que Dieu l'a sauvée. Et face à ça, elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour remercier Dieu? Alors on pourrait se dire, je vais passer plein d'heures en oraison. Non, pas du tout. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre à Dieu d'en sauver d'autres. L'amour de Dieu, l'amour tout court, a besoin de se donner. A besoin de se donner. On est fait pour le don. L'amour, ce n'est pas se replier sur soi. Il y avait, là, ça pourrait être en écho de ce que nous disait bellement Christophe tout à l'heure. Il y a besoin de se donner. Alors maintenant, si ce commandement de l'amour, Thérèse l'a si bien incarné, et qu'elle comprend que c'est le but de la perfection, la vraie perfection, c'est le commandement de l'amour, comprenons, mes filles, que la véritable perfection est dans l'amour de Dieu et du prochain, ça ne peut pas être plus clair. Alors, on va voir comment Thérèse va mettre en œuvre ses communautés, qu'est-ce qu'elle va faire pour permettre à ses sœurs de faire cette même découverte et puis surtout de le mettre en pratique, de laisser le Seigneur les faire grandir en amour de Dieu et du prochain, et l'amour, il doit se donner, donc en acte. La première chose, c'est que, je crois, ça c'est une intuition, j'ai un peu de mal à la formuler pour être honnête, mais que c'est ce double commandement qui est à l'origine, qui crée la communauté. Je reçois cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu, il se déploie en amitié avec le prochain. Or, qu'est-ce que c'est qu'une communauté, si ce n'est une communauté d'amitié, de relation, d'amitié les uns avec les autres. Donc, le double commandement conduit à la constitution d'une amitié. Alors, on voit bien chez Thérèse, plus elle grandit, plus les communautés autour d'elle grandissent. Même une, alors je vous donne quelques exemples. Elle est enfant. Elle est touchée par l'amour des saints pour Dieu. Amitié avec Rodrigo, elle part chez les morts. Elle grandit, puis avec ses amis. Elle a été quand même bien touchée. Il y a quelques amis là. Elle joue à l'ermite, communauté d'ermites, communauté supplémentaire. Plus tard, à l'incarnation, elle fait cette découverte de l'amour-amitié, dans l'oraison. Et là, il y a tout de suite trois compagnes qui se mettent autour d'elle. Son père. Puis, la crise de la conversion étant passée, on sait qu'avant qu'elle fonde Saint-Joseph, il y avait une quarantaine de sœurs qui la suivaient, hein, selon un document donc, du père Ibanez qui est conservé. Voilà. Où dans la vie, elle parle de nous saints qui nous aimons présentement en notre Seigneur. J'ai même une intuition, alors ça sera pour un prochain centenaire, mais je pense, mais là il y a à vérifier, ça m'est venu là, il y a une semaine un peu en travaillant, je me demande si on ne pourrait pas mettre en parallèle les communautés que Thérèse a fondées ou qui sont nées autour d'elle, en parallèle avec sa découverte de l'amour, vous voyez ? Hein, de construire, par exemple, peut-être à partir du livre des demeures, font bon à voir. Hein. Et j'ai un peu l'intuition que le truc, c'est que, par exemple, le mariage spirituel, c'est une amitié qui est pour toujours, c'est ça l'essence, hein, avec Dieu, qui ne peut plus être rompue, une amitié définitive, et mettre ça en parallèle avec un ordre qui existe encore aujourd'hui, vous voyez. Bien, alors ça. Alors, l'amitié, pourquoi ces amitiés? Si effectivement elle vit cette amitié avec Dieu, elle va se déployer en amitié avec les frères. Il faut voir aussi que l'amitié, et elle en a une grande expérience, soutient le spirituel sur un chemin ardu, surtout dans cette époque où l'oraison, et surtout faite par des femmes, alors là c'est l'horreur totale, était suspectée. Voilà, c'était tout de suite des protestantes, hein, il n'y avait aucun doute. Donc, tant de gens médisent de ceux qui commencent à se donner à Dieu qu'ils doivent chercher de la compagnie pour se défendre jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour ne pas craindre la souffrance. Hein, et ça, c'est une des grandes idées de Thérèse. On va faire des communautés pour pouvoir se soutenir les uns les autres. Ça, je crois que c'est vital. Enfin. De plus, la charité, et ça va être une autre idée, croît à proportion qu'elle se communique. Il va falloir dans une communauté, on va voir comment Thérèse le met en œuvre, pour grandir dans l'amour de Dieu, il faut qu'il y ait des lieux où on puisse l'exercer. Hein ? Si on est tout seul, chacun dans son coin, non, ça ne marche pas, quoi. Hein ? Il faut que j'ai des occasions de pouvoir aimer en acte mes frères et sœurs. Dès lors, on ne peut s'étonner que la croissance de l'amour chez Thérèse débouche sur la création d'une communauté. Mais cette communauté sera caractérisée et même organisée par ce double commandement, vous voyez, dans l'autre sens. Caractérisée. D'abord, Thérèse ne cesse de parler à ses sœurs du but pour lequel le Seigneur les a réunies ici. Et quel est ce but ? Le service de sa majesté, amour de Dieu, en donnant leur vie pour le salut de leurs frères et sœurs, amour du prochain. Vous voyez l'articulation. Comment je vais servir sa majesté ? Comment je vais être une bonne épouse ? C'est en m'intéressant à mes frères et sœurs. C'est-à-dire que le commandement de l'amour dans sa double dimension. Il est d'ailleurs frappant que le verbe runtar, que Thérèse utilise pour désigner l'union par la charité des sœurs entre elles ou au sein de la famille, bon là vous verrez dans mon texte, j'ai fait une étude un peu précise, soit un de ceux qu'elle utilise couramment pour désigner l'union avec Dieu. Il y a un seul mot pour l'union avec Dieu et l'union avec les sœurs. Si les sœurs recherchent l'union à Dieu, elles se doivent d'être unies entre elles. Et l'amitié fraternelle sera une des trois choses que Thérèse recommande particulièrement à ses filles. Bon, là, le père Massimiliano nous en a parlé. Alors, reste à organiser une communauté selon ce principe, et c'est là que le génie pratico-spirituel de Thérèse va donner toute sa mesure. Alors, je voudrais voir avec vous quatre aspects, structurés en trois parties. Premier aspect, qui pourrait être la première partie, l'amour se reçoit de Dieu. Donc, il va falloir prévoir. Hein, cette amitié, elle va organiser un cadre pour que cette amitié avec Dieu soit toujours non seulement possible, mais encouragée. Alors, il y a énormément d'éléments. Hein. Il y a, par exemple, je vais vous donner des détails. Bon, on pourrait dire les trucs que vous avez tous devinés, les deux heures d'oraison, évidemment, le fils, évidemment. Bon. Mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, que Thérèse va organiser le travail de manière totalement antiproductive? Parce que ce qui lui compte pour elle, c'est pas que les sœurs elles produisent beaucoup de chasubles dorés, ça elles s'en fichent éperdument, hein, mais c'est qu'elles restent avec le Seigneur. Et le travail, le premier but du travail pour Thérèse, c'est pas de faire vivre la communauté. Si vous faites une étude des comptes, vous voyez que franchement ça apporte à peu près rien. Hein, mais c'est en fait un but spirituel qui est dans la ligne des pères du désert, enfin de toute la tradition spirituelle, c'est que la règle. Hein, que l'oisiveté est une porte d'entrée au délire de l'imagination, hein, et au démon. Et donc, du coup, il faut travailler, il faut s'occuper pour pouvoir rester avec l'époux. Mais évidemment, pas n'importe quel travail. Si c'est un travail qui me demande une concentration faramineuse, je ne peux plus rester avec l'époux, je suis surtout avec mon travail, quoi, avec ma chasuble. Bon, après, on ne peut pas toujours faire autrement, hein, ça c'est une autre question. Bien. Donc, vous voyez, ça, le travail. Un autre élément, je vous donne quelques aspects. Les images. Thérèse se débrouille pour qu'il y ait des images partout dans ses monastères. Elle dit si joliment, à la fin du chapitre 34 du chemin, « Moi, je voudrais que, où que je tourne la tête, je vois son image, celle de Jésus. » Où elle dit « Prenez une image, pas pour la garder toujours sur vous, alors je glose un peu, dans votre sac à main, mais pour la regarder. Ayez une image, ayez pas peur, nous dit Thérèse, d'avoir des images. » Et donc, dans sa communauté, elle peut avoir à peu près rien, la fameuse fondation de Tolède, il lui reste que deux ducats pour louer, acheter une maison, l'équiper, etc., dans une des villes qui étaient les plus riches, les plus chères du royaume. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces deux ducats ? Acheter une couverture, elle a quand même un peu de bon sens, c'est sûr, et acheter deux tableaux qui sont encore conservés, qui ne sont pas évidemment des super œuvres d'art, c'est pas Velázquez, mais elles sont touchantes. Elles font aimer Jésus. Donc, premier aspect, cet amour, il se reçoit de Dieu. Et donc, organiser la communauté, organiser l'espace de la communauté, organiser le temps de la communauté, de façon à permettre de rester, d'entretenir, de grandir dans cette amitié avec l'époux. Deuxième aspect, c'est là qu'il va se... C'est comme la deuxième partie, avec deux angles. Le deuxième point, c'est que si l'amour se reçoit de Dieu, il nécessite aussi un cadre pour se développer. Il nécessite un cadre pour se développer. Thérèse en avait une longue expérience. Le monastère de l'incarnation, elle avait l'expérience que le monastère de l'incarnation n'était pas vraiment un cadre idéal pour faciliter ce développement de l'amitié avec le Christ et avec les sœurs. Et qu'il exigeait, en fait, ce cadre, une réelle maturité qu'elle-même, étant jeune, n'avait pas. Voilà ce qu'elle nous dit, chapitre 7 de la vie. La liberté dont les bonnes religieuses ne pouvaient user pour le bien, puisqu'on ne leur demandait pas davantage et que nous ne faisions pas vœu de clôture, m'aurait, moi, qui suis misérable, mené en enfer. En fait, l'amitié divine, au début, c'est comme des petites pousses fragiles. Et Thérèse, elle a fait cette expérience que, bah oui, la petite pousse fragile, elle n'était pas du tout en serre, et du coup, elle a bien failli être écrasée pour toujours. Alors du coup, elle va vouloir faire une communauté qui va protéger les petites pousses fragiles, qui va leur permettre de grandir. Alors attention, pas comme un cocon qui stérilise tout. Prenez toujours l'image de l'arbre. La petite pousse fragile, au début, il lui faut la serre. Vitale, sinon il n'y aura pas... Mais une fois qu'elle est suffisamment grande, il faut la planter en pleine terre. Et donc Thérèse, avec un sens de la pédagogie, un sens spirituel qui est absolument extraordinaire, va petit à petit, et là on a plein de témoignages, enfin voilà comment les sœurs vivaient en fonction aussi de l'âge et de la maturité et tout ça, on a plein de témoignages où on voit que si au début Thérèse, elle est très très stricte sur les relations des jeunes sœurs avec leur famille et tout ça, quand il y a cette maturité qui vient, qu'elle dit, ben voilà, quand vous pourrez recevoir vos familles sans y prendre plaisir, je caricature un peu, alors oui, là, à la bonne heure, surtout, les relations avec les parents, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. En fait, c'est le reflet de ça. Quand vous serez suffisamment mûr pour que votre amour de Dieu et du prochain puisse donner de l'amour à vos parents, et pas que cette relation avec vos parents, enfin vos amis, stérilise votre amour de Dieu qui est tellement faible, alors là, oui. Là, vous pourrez y aller. Vous voyez, il y a toute une pédagogie. Mais il faut un cadre. Il faut un cadre. Il y a Murillo, qui est un carme, je ne sais pas, de la province de Navarre, peut-être, non enfin, espagnol, oui. Non, pas Moliones, Murillo. Si. Voilà, Navarre. Voilà, un carme qui a beaucoup travaillé la communauté thérésienne et qui a cette expression qui est très, qui, moi, me parle beaucoup. Il dit... le cadre que Thérèse veut créer, en fait dans sa communauté un microclimat théologal. Et c'est pour ça un des éléments du microclimat. Il va avoir beaucoup des éléments de microclimat théologal pour favoriser l'amour. Il va falloir un peu le protéger, d'où le sens de tout ce que Thérèse dit sur la clôture, sur les relations avec les familles, etc. Mais aussi, et j'en parlerai un peu dans le plus, enfin si j'en parlerai dans ma un peu après, mais il va y avoir aussi les relations avec les sœurs. Il va falloir permettre, vous voyez, un cadre où les relations avec les sœurs puissent se déployer, etc. Bon, ça, un cadre. Deuxième versant, alors oui, ce cadre, en fait, il faut pas le prendre comme quelque chose de restrictif qui enserre. Si c'est pour faire un microclimat théologal, en fait, c'est pour ouvrir un espace de liberté. Hein. La communauté, telle que Thérèse la comprend, c'est un espace de liberté pour les sœurs. Alors, bon, je me suis intéressé par ailleurs à diverses communautés religieuses de l'époque, en particulier celle des franciscaines des Chaussées, qui a servi de lointaine source d'inspiration à Thérèse. Et j'ai vu l'horaire, et puis bon, sur d'autres communautés. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant. C'est que dans ces communautés réformées, les sœurs, elles n'ont jamais plus d'une demi-heure devant elles. C'est du saucissonnage, quoi. Hein. Il s'agit de multiplier les activités de tous ordres, c'est compris comme une ascèse. Et donc la sœur, elle n'a pas un moment pour respirer, quoi. Hein. Alors, chez les franciscaines des Chaussées, mais c'est surréaliste. Chez Thérèse, vous reprenez son horaire. Les sœurs, elles ont 3 heures le matin, 3 heures le soir, où certes elles doivent travailler, en compagnie de leur époux, mais elles le font comme elles l'entendent. Et il y a plusieurs témoignages des sœurs de l'époque qui disent, bah oui, on a une liberté extraordinaire. Vous replongez ça dans le contexte qui est, alors moi je ne suis pas féministe, ça je vous garantis, mais alors je vous dis que c'est, mais le contexte de 16e siècle espagnol, désolé, je suis un homme, hein, j'assume, hein. J'assume, mais objectivement, le 16e siècle, le siècle d'or espagnol est d'un machisme dont on n'a pas idée, qu'on peut même pas imaginer. Vraiment impossible. Voilà. Et c'est clair que Thérèse, en aménageant ce cadre, elle donne un espace de liberté fantastique pour permettre à la grâce féminine des sœurs de se déployer et de donner dessous de sa richesse. Hein, et d'enrichir l'Espagne, l'Église, etc. Donc, pensez ce cadre comme un espace de liberté. Mais la liberté s'apprend, et Thérèse en est bien consciente. Il ne suffit pas d'être libre pour en faire bon usage. Et c'est là, mais alors là, grâce au père Massimiliano qui m'a précédé, je peux aller vite, où un des génies de Thérèse, c'est d'avoir donné à ses communautés une pédagogie. Bon, c'est le chemin de perfection. Comment habiter ce cadre de liberté, le chemin de perfection? Et avec une communauté sans pédagogie, c'est une communauté qui s'asphyxie. C'est une communauté qui ne peut plus vivre. Hein, parce qu'il n'y a plus une pédagogie pour le déploiement de l'amour. Il faut une pédagogie. Et ça, c'est un des grands coups de génie de Thérèse. En fait, vous pensez d'ailleurs de la plupart des très grands fondateurs d'ordre monastique. Saint Benoît, hein, sa règle, c'est une pédagogie. S'il y a eu ce développement de l'ordre bénédictin, c'est qu'il y a non seulement la règle, mais dans la règle, il y a toute une pédagogie. Alors, avec Thérèse, c'est encore mieux, parce que non seulement il y a la règle d'un côté, mais il y a la pédagogie, c'est tout un livre, c'est plus long que la règle de Saint-Benoît. Et puis, troisième aspect de la communauté, c'est, on a vu tout à l'heure, l'amour doit pouvoir se donner. Et ça va être un autre coup de génie de Thérèse, c'est de prévoir des lieux de vie communautaire où les sœurs vont pouvoir se donner réellement. L'amour s'exerce, sinon il est stérile et ne saurait être de l'amour vrai. Voilà, bon, je vous lis un passage célébrissime de Thérèse. « Quand je vois des âmes s'adonner diligemment à examiner leur oraison, si encapuchonnées qu'elles n'osent ni bouger ni détourner leurs pensées pour éviter qu'un peu de leur plaisir et de leur ferveur ne se dérobe, j'en conclus qu'elles comprennent bien mal par quel chemin on atteint à l'union et qu'elles pensent que toute l'affaire se réduit à cela. Mais non, mes sœurs, non. Le Seigneur veut des œuvres. Si tu vois une malade à qui tu puisses apporter certains soulagements, peu doit t'importer de perdre cette ferveur. Aie pitié d'elle. Si elle souffre, souffre toi aussi. Et si c'est nécessaire, jeûne pour qu'elle mange à ta place. Moins pour elle que parce que tu sais que le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. » Etc. Alors, les procès de canonisation regorgent de témoignages sur l'importance que Thérèse apportait à cet exercice concret de la charité qui s'exerçait notamment envers les malades. C'est vraiment une priorité pour Thérèse et qu'elle enseigne dans sa formation, dans sa pédagogie à ses sœurs. Prends soin d'abord de tes sœurs, concrètement de celles qui sont autour de toi, avec lesquelles tu vis. Notons d'ailleurs au passage, dans ce petit texte, l'articulation des deux versants du commandement de l'amour qui en ressort. Hein. Jeûne pour qu'elle mange à ta place, moins pour elle que parce que tu sais que le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Hein, l'amour authentique, aimé pour Dieu, c'est génial. Hein. Mais la grâce reçue ne s'exerce pas simplement dans les œuvres de charité. Elle concourt à l'amitié entre les sœurs. Et c'est là un autre aspect du génie pratique de Thérèse qui prévoit dans la vie de la communauté des lieux où les sœurs pourront déployer la grâce reçue dans une amitié qui les soutiendra dans leur marche vers le Seigneur. C'est d'abord la récréation. Il y a quelque chose qui est très parlant, c'est que Thérèse prévoit autant de temps de récréation que de temps oraison formelle. Hein. Bah oui, il faut autant de temps pour déployer l'amitié avec les sœurs que l'amitié avec le Christ. Et disons que l'amitié avec le Christ doit se déployer dans l'amitié avec, avec les sœurs et ça prend au moins tant de temps. Moi, j'aurais même tendance de dire qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que l'amitié avec Dieu, lui, il est doué. Hein, et voilà, c'est le tu éternel dont nous parlait Christophe tout à l'heure. Donc, il est très différent de nous, mais il est beaucoup plus doué que nous. Donc, avec lui, ça va plus vite. Mais entre nous, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Bien. Et donc, il va y avoir les récréations. Et autre chose qui... À mon avis, on n'a pas du tout, et dans les communautés de tous ordres, bon, chez les frères, c'est peut-être plus facile, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre, à recueillir de ça, de cette possibilité, de cet encouragement que Thérèse donne dans ses constitutions, donc ses constitutions 7, à deux sœurs qui, pour mieux aviver leur amour pour l'époux, souhaiteraient parler de lui entre elles, ou chercher à se réconforter l'une l'autre en cas de nécessité ou de tentation. Vous voyez, des vraies amitiés, hein, qui ne sont pas exclusives, mais qui se soutiennent. Hein. Je veux dire, un frère appuyé sur un autre frère, c'est une forteresse. Voyez. Et ça, là, je crois que Thérèse, on a beaucoup, alors en tout cas en France, à mon avis, on a beaucoup à être plus simple de ce côté-là. Hein. Être plus simple et pas avoir peur hein, de cette amitié et qui nous soutiennent dans notre route vers le Seigneur. Et donc ainsi, Thérèse organise ses communautés pour que l'amitié avec Dieu et l'amitié avec les sœurs puissent trouver un cadre favorable à leur développement et puissent se nourrir mutuellement. Alors maintenant, je voudrais me hasarder donc, à partir de cet exemple hein, de la communauté thérésienne, à quelques réflexions sur la communauté plus en général. Alors tout d'abord, hein, au cœur de la communauté, la personne humaine, hein, l'articulation entre personne et communauté. Ce qui a conduit Thérèse hein, à fonder une communauté est son expérience personnelle. Déploiement de sa capacité et aussi de son besoin de relation. Enfin, ça, c'est comme nous tous. Au cœur de la communauté se trouve la personne qui est son fondement. Alors, Thérèse en avait d'ailleurs une très large expérience personnelle sur elle-même, mais aussi avec certaines de ses sœurs entrées sans vocation à l'incarnation et qui ne pouvaient entrer dans une communauté qui ne répondait pas à leur aspiration. Si vous voulez, si la personne est première... Eh bien, si elle n'a pas la vocation pour entrer dans une communauté, vous ne pouvez pas la forcer, vous voyez. Ce n'est pas possible. Parce que la communauté est ordonnée au bien de la personne. Hein, la personne est première. Bien. Thérèse, d'ailleurs, l'exprime, hein, bon, enfin, c'est tout son humanisme, hein, toute sa sagesse de vie, hein, son don pour les relations, l'exprime avec beaucoup de finesse dans ses constitutions, dans les indications qu'elle donne à la maîtresse des novices. Elle dit « La maîtresse des novices traitera les novices avec amour et pitié, sans s'étonner de leurs fautes, car elles avancent peu à peu, et elle mortifiera chacune d'elles dans la mesure où leur degré de spiritualité pourra le supporter. » Ça, je crois beaucoup. Cette progressivité, si vous voulez. Hein, cette progressivité, c'est pas se prendre un cadre et puis vas-y, marche ou crève. Hein, hein, mais il y a cette progressivité. Thérèse dit, j'y reviendrai un peu plus loin, Thérèse dit, à la fin, dernier paragraphe du chapitre 13 du chemin, elle dit, voilà, pour rentrer dans le cadre matériel de la communauté, on pourra laisser aux sœurs un an. Bon, au bout d'un an, si elle n'est pas rentrée, elle ne rentrera jamais, donc ça veut dire que ça ne va pas. Bon. Mais on laissera quand même aux sœurs un an. On laissera aux sœurs un an. Il y a cette progressivité. Ça, je pense que dans notre vision de la vie spirituelle, on va trop vite au but, souvent. Et on oublie que nous, on est incarnés, on est temporisés, hein. Et que notre développement, le Seigneur est patient. Hein. Et ben voilà, on a toute notre vie pour se préparer à l'éternité. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas en un instant. Bien. Mais inversement, et ça c'est important de le rappeler aujourd'hui, le témoignage thérésien est particulièrement net, le bien de la personne est toujours social, car l'homme est un être social. La personnalité de Thérèse, toujours à la recherche de relations, en est un exemple particulièrement manifeste. Mais elle n'est que le reflet de ce que nous sommes et que peut-être nous avons enfoui. Au fur et à mesure, voilà, ça je l'ai déjà dit. Pardon. Mais bien que Thérèse ait eu une réelle facilité naturelle pour les relations, ces années de crise auraient pu, elle aussi, la replier sur elle-même et ses blessures. Elle ne serait alors jamais devenue fondatrice. L'élément déterminant a été sa relation avec le Christ, conversion, vie neuve, hein, face au Christ, à l'image du Christ très blessé, qui petit à petit a transformé son être social, lui donnant la capacité d'avoir de vraies relations. L'homme est un être social, mais il a besoin d'être sauvé. Cet être social a besoin d'être sauvé, et il est sauvé par la relation avec le Christ, l'oraison, amitié. Voilà, Thérèse, c'est un exemple criant. Et là, pour ceux qui auraient des doutes, je leur dis, essayez, vous verrez. Commencez à vous tourner vers Jésus. Vous vous sentez complètement coincé dans vos relations et tout. Bon, ça nous arrive tous, hein. Voilà. Tournez-vous vers Jésus, aimez Jésus, et Jésus vous apprendra. Et petit à petit, il vous ouvrira. Parce que vous êtes faits pour les relations, tous. Et pour finir, donc réflexion sur la communauté, donc la personne, articulation, personne, communauté, où là vraiment l'exemple thérésien me paraît particulièrement éclairant. Pour finir, je voudrais peut-être sortir trois règles d'or d'une communauté, hein, que nous enseigne l'exemple thérésien. Alors j'ai un peu en arrière-fond, je vous dis, la théologie du don. Hein. La théologie du don, entre autres, bon, telle que je l'ai découverte dans un livre de Pascalide, que vous trouvez les références. D'abord, une communauté, à la source de la communauté thérésienne, se trouve celui qui est la source de tout don parfait, celui qui nous a réunis ici, Dieu. La communauté authentique se reçoit d'un autre, de Dieu, à sa source dans un autre qu'elle-même. C'est Dieu qui convoque, et cela a des répercussions pratiques fortes. Ce n'est pas nous qui créons la communauté. Ultimement, une communauté, pour naître et être durable, elle a besoin de naître d'un autre, d'une forme de transcendance. Thérèse en est bien consciente, elle qui accueille les sœurs, quelles qu'elles soient, si elles ont effectivement une vocation, même si elles sont issues de classes sociales, genre les juifs convertis, qu'il faudrait écarter pour la bonne renommée humaine du monastère, ou dans leur famille, dont la famille ne peut ou ne veut pas payer de dot. Ou encore que leur santé semble interdire de suivre l'ensemble des austérités de la règle. Entre autres, par exemple, la bienheureuse Marie de Jésus. Ou encore que leur vie ait été marquée par un scandale, genre sa nièce Béatrice. Si la vocation est là, et que la sœur manifeste sa volonté décidée d'y répondre, rien ne sera pour Thérèse un empêchement à l'accueillir dans ses carmels. Ça, je pense que Thérèse, elle nous interroge. Hein. Est-ce qu'on se fait de l'auto-recrutement? Ou est-ce qu'on accueille, et je dirais par-delà les communautés dans l'Église, ceux que le Christ nous envoie, même si ce n'est pas du tout ceux auxquels on aurait pensé, hein, et qui sont très, 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 très différents de nous, hein. Est-ce que, ça c'est à mon avis une vraie question, hein, que Thérèse nous pose. Bien. Deuxième élément dans le même sens, alors il n'y a pas que la communauté qui soit reçue. Si la personne est première, évidemment, c'est d'abord chaque membre de la communauté qui doit se recevoir de Dieu. Et là, il y a une responsabilité individuelle. Car le oui à la relation avec Dieu est un oui libre et personnel. Et là, il n'y a aucune communauté qui peut poser un oui pour un de ses membres. Désolé, c'est impossible. Là, ça nous interroge sur comment je me positionne par rapport à ma communauté. Est-ce que j'attends que ma communauté ait les qualités que je n'ai pas, dise les oui que je n'arrive pas à dire? Ou est-ce que, détermination bien déterminée, je regarde le problème en face, je me tourne vers le Christ, parce que l'amitié avec Jésus est toujours le principe du salut, il n'y en a pas d'autre, hein, c'est pas musclore. Et voilà, je me tourne vers Jésus, et là, petit à petit, oui, j'arrive à dire ce oui, et c'est là où la communauté va enfin grandir, quoi. Mais ce don de Dieu qu'est la grâce communautaire, s'il se reçoit, doit aussi être assimilé, ce qui nécessite un cadre et une pédagogie qui se déploie dans le temps. D'abord le cadre. Pas de communauté pérenne qui n'ait ses lois acceptées par tous, qui protègent la grâce communautaire et lui permettent ainsi de grandir. La communauté façon 68 arde où chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règles. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. On voit bien, on est en 2015, ces communautés, elles n'existent plus, quoi. Il faut un cadre, il ne faut pas avoir peur, hein, de ce cadre. Ce cadre est d'abord un lieu et un temps. Pour Thérèse, c'est un monastère organisé jusque dans les détails. Hein. Elle dit dans les fondations puis dans plusieurs de ses lettres qu'elle ne veut pas quitter un monastère tant qu'elle ne l'a pas totalement installé, qu'il n'est pas totalement recueilli, elle dit. Hein. Ça veut dire où elle n'a pas tout ordonné en fonction de cet amour de Dieu et du prochain. C'est ça le recueillement pour Thérèse. Vous voyez? Donc il faut un cadre. Et l'attention de Thérèse jusque dans les détails, pensez à l'histoire de la cuisine de Soria, donc c'est son avant-dernière fondation, elle se soucie de que la cuisine soit au même étage que le réfectoire pour éviter du travail aux sœurs. Hein, ça va jusque-là. Hein, favoriser qu'on ne perde pas des énergies inutiles dans des choses qui n'en valent pas la peine. Déplacer des plats de spaghettis. Spaghettis, il n'y en avait pas trop au XVIe siècle. Bien. Donc un monastère organisé jusque dans les détails, y compris des images accrochées au mur, et une vie commune qui prévoit des temps fraternels mis sur le même plan que les temps d'oraison. Pour une famille, une communauté, ce sont des lieux qui évoquent une histoire, une vie commune, et des temps de rencontres réelles, sans lesquels une communauté ne saurait se construire, la charité ne saurait se déployer. Alors, bien sûr, il y a à une époque, et ça c'est très vrai, à vouloir tout garder, on ne pouvait plus vivre, quoi. Hein ? Mais en même temps, pour qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait une certaine continuité. Même si, évidemment, on ne va pas vivre notre vie au Carmel comme il y a 50 ans, c'est du bon sens. Voilà, la question ne se pose même pas. Mais il va y avoir des éléments de continuité. Hein ? Moi, je vois bien, dans l'un ou l'autre couvent de frères espagnols, je parle de l'Espagne parce que les couvents sont souvent plus anciens que chez nous, dans l'un ou l'autre couvent de frères qui a été refait tout à fait opportunément, le fait qu'il y ait toujours la même statue de la Sainte Vierge, hein, devant lesquelles les frères y priaient déjà il y a 100 ans, ça aide à aimer. Mais c'est pas pour ça qu'on va voir le culte des murs et qu'on va rien bouger, parce que alors là, ça devient l'horreur, quoi. C'est l'asphyxie, voyez. Hein, mais il faut un cadre qui soit porteur, qui soit aménagé. Il y a des images. Vous savez, les frères, hein, français, on va en Espagne. La première fois que je suis revenu d'un pèlerinage en Espagne dans les églises baroques, je suis rentré dans la chapelle de mon couvent, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est vide. Bon, alors peut-être qu'il peut y avoir un juste milieu, puis ça dépend des cultures, hein, bien sûr. Mais bon, j'aime beaucoup le baroque, hein, j'aime beaucoup le baroque espagnol. Bon, mais on n'est pas obligé de me suivre, hein, là-dessus. Voilà. Tout cela prend du temps. Hein. Tout cela, ça suppose aussi du temps, hein, du temps, des temps pour se retrouver, où on ne court pas toujours partout, et ça coûte, où on est ensemble vraiment pour des vraies relations. Et ça, c'est quelque chose qui coûte, mais qui est absolument fondateur, indispensable. Et puis, ça nécessite une pédagogie. Pédagogie de la relation avec Dieu, mais de manière absolument inséparable. Et la grâce thérésienne qui ne cesse d'aller et venir entre l'oraison et les relations fraternelles ne cesse de nous le répéter. Pédagogie des relations humaines. Enfin, ce sera le dernier paragraphe, la communauté thérésienne n'a de sens, troisième dimension, vous voyez, il faut se donner. La communauté thérésienne, la communauté, n'a de sens que pour le but pour lequel le Seigneur nous a réunis ici, c'est-à-dire le bien d'un autre qu'elle-même. Si la communauté a besoin d'un cadre pour exister et pour grandir, c'est vital, elle doit être féconde pour d'autres qu'elle-même, sinon elle meurt et elle s'asphyxie. La vie s'est manifestée, nous l'avons touchée, nous nous la sommes appropriée, elle a grandi et s'est déployée en nous et nous vous l'annonçons, pourrions-nous dire en paraphrasant saint Jean. Et c'est ça que nous dit la communauté thérésienne. Je reçois la vie, je me l'approprie, je la touche, je me l'approprie, et après, je la donne et je l'annonce. Alors que Thérèse nous permette de vivre ce beau programme. Amen.